Étienne Bonneau de Condillac, Traité des sensations, partie 4, des besoins de l'industrie et des idées d'un homme seul qui jouit de tous ses sens. Chapitre 6. Considérations sur les idées abstraites et générales que peut acquérir un homme qui vit hors de toute société. L'histoire que nous venons de faire des connaissances de notre statut montre sensiblement comment elle distribue les êtres en différentes classes, suivant les rapports à ses besoins, et par conséquent, comment elle se fait des notions abstraites et générales. Mais pour mieux connaître la nature de ses idées, il est important d'entrer dans de nouveaux détails. La statue n'a point d'idée générale qui n'ait été particulière. Elle n'a point d'idée générale qui n'ait d'abord été particulière. L'idée générale d'orange, par exemple, n'est dans son origine que l'idée de telle orange. En quoi consiste l'idée qu'elle a d'un objet présent? L'idée particulière, lorsqu'un objet est présent au sens, c'est la collection de plusieurs qualités qui se montrent ensemble. L'idée de telle orange, c'est la couleur, la forme, la saveur, l'odeur, la solidité, le poids, etc. D'un objet absent, cette idée particulière, quand l'objet n'agit plus sur les sens, c'est le souvenir qui reste de ce qu'on a connu à la vue, au goût, à l'odorat, etc. Fermez les yeux, l'idée de la lumière est le souvenir d'une impression que vous avez éprouvée. Ne touchez rien, l'idée de solidité est le souvenir de la résistance que vous avez rencontrée, en maniant des corps, ainsi du reste. Comment de particulière ces idées deviennent générales? Substituons successivement, et une à une, plusieurs oranges à la première, et qu'elles soient toutes semblables, notre statue croira toujours voir la même, et elle n'aura à ce sujet qu'une idée particulière. En voit-elle deux à la fois? Aussitôt, elle reconnaît dans chacune la même idée particulière, et cette idée devient un modèle auquel elle les compare, et avec lequel elle voit qu'elles conviennent l'une et l'autre. Elle découvrira de la même manière que cette idée est commune à 3, 4, 5, 6 oranges, et elle la rendra aussi générale qu'elle peut l'être. L'idée particulière d'un cheval et celle d'un oiseau deviendront également générales lorsque les circonstances feront comparer plusieurs chevaux et plusieurs oiseaux, et ainsi de tous les objets sensibles. Ayant les notions générales d'orange, de cheval, d'oiseau, notre statue les distinguera par la même raison qu'elle distingue une orange d'un oiseau, un oiseau d'un cheval. Elle rapportera donc chacun de ces individus au modèle général dont elle s'est fait l'idée, c'est-à-dire à la classe, à l'espèce à laquelle il appartient. Or, comme un modèle qui convient à plusieurs individus est une idée générale, de même deux, trois modèles, sous lesquels on arrange des individus tous différents, sont différentes classes, ou pour parler le langage des philosophes, différentes espèces de notions générales. Comment d'une idée générale, elle descend à de moins générales? Lorsqu'elle jette les yeux sur une campagne, elle aperçoit quantité d'arbres dont elle ne remarque point encore la différence. Elle voit seulement ce qu'ils ont de commun. Elle voit qu'ils portent chacun des branches, des feuilles, et qu'ils sont arrêtés à l'endroit où ils croissent. Voilà le modèle de l'idée générale d'arbre. Elle va ensuite des uns aux autres, elle observe la différence des fruits, elle se fait des modèles, par où elle distingue autant de sortes d'arbres qu'elle remarque d'espèces de fruits, et ce sont là des idées moins générales que la première. Elle se fera de même l'idée générale d'animal si elle voit dans l'éloignement plusieurs animaux dont la différence lui échappe, et elle les distinguera en plusieurs espèces lorsqu'elle sera à portée de voir en quoi ils diffèrent. Elle généralise à proportion qu'elle voit plus confusément. Elle généralise donc davantage à proportion qu'elle voit d'une manière plus confuse, et elle se fait des notions moins générales à proportion qu'elle démêle plus de différences dans les choses. D'abord, toutes les pommes, par exemple, lui paraissent conformes au même modèle. Mais dans la suite, elle ne trouve pas à chacune une saveur également agréable. Dès lors, le désir du plaisir et la crainte du dégoût les lui font comparer, sous les rapports qu'elle y peut découvrir. Elle apprend à les distinguer à la vue, à l'odorat, au toucher. Elle s'en forme différents modèles propres à éclairer son choix, et elle les distribue en autant de classes qu'elle y remarque de différence. Objets dont elle ne prend aucune connaissance. Quant aux objets qui ne l'intéressent ni par le plaisir ni par la peine, ils restent confondus dans la foule et elle n'en acquiert aucune connaissance. Il ne faut que réfléchir sur nous pour se convaincre de cette vérité. Tous les hommes ont les mêmes sensations, mais le peuple occupé a des travaux pénibles, l'homme du monde tout entier a des objets frivoles et le philosophe qui s'est fait un besoin de l'étude de la nature ne sont sensibles ni au même plaisir ni aux mêmes peines. Aussi tirent-ils des mêmes sensations, des connaissances bien différentes. Dans quel ordre elle se fait des idées d'espèce? Voici donc l'ordre dans lequel notre statue se fait des idées d'espèce. D'abord, elle n'aperçoit que les différences les plus sensibles, et elle a des idées très générales, mais en petit nombre. Si c'est la couleur qui la frappe davantage, elle ne fera qu'une classe de plusieurs espèces de fleurs. Si c'est le volume, un levreau et un chat ne seront pour elle qu'une seule espèce d'animal. Les besoins lui donnent ensuite occasion de considérer les objets par d'autres qualités. Elle fera des espèces subordonnées aux premières. D'une notion générale, il s'en formera plusieurs qui le seront moins. Elle passe donc tout d'un coup des idées particulières aux plus générales, d'où elle descend à de moins générales, à mesure qu'elle remarque la différence des choses. C'est ainsi qu'un enfant, après avoir appelé or tout ce qui est jaune, acquiert ensuite les idées de cuivre, de tombac, et d'une idée générale, en fait plusieurs qui le sont moins. Son ignorance sur la nature des choses. Par la génération de ces idées, il est évident qu'elles ne présenteront à notre statue que des qualités différemment combinées. Elle voit par exemple la solidité, l'étendue, la divisibilité, la figure, la mobilité, etc., réunies dans tout ce qu'elle touche, et elle a par conséquent l'idée de corps. Mais si on lui demandait ce que c'est qu'un corps, et qu'elle pût répondre, elle en montrerait un, et dirait c'est cela, c'est-à-dire cela, où vous trouvez tout à la fois de la solidité, de l'étendue, de la divisibilité, de la figure, etc. Commune au philosophe. Un philosophe répondrait, c'est un être, une substance étendue, solide, etc. Comparons ces deux réponses et nous verrons qu'il ne connaît pas mieux quelle est la nature du corps. Son seul avantage, si c'en est un, c'est de s'être fait un langage qui ne paraît savant que parce qu'il n'est pas celui de tout le monde. Car dans le vrai, les mots « être »,« substance » ne signifient rien de plus que le mot « cela ». Les idées qu'elle a des objets sont confuses. De là, il faut conclure que les idées qu'elle a des objets sensibles sont confuses, car j'appelle confuse toute idée qui ne représente pas, d'une manière distincte, toutes les qualités de son objet. Or, il n'est point de corps dont elle ait une connaissance aussi parfaite, elle n'y voit que les propriétés, que ses besoins lui donnent occasion d'y remarquer. Avec plus de sagacité, elle en démêlerait un plus grand nombre, et si elle pouvait pénétrer jusque dans la nature des êtres, elle n'en trouverait pas deux parfaitement semblables. Elle ne suppose donc que plusieurs ne diffèrent point entre eux que parce qu'elle les voit confusément. Ces idées abstraites sont de deux espèces. Quant à ces notions abstraites, il y en a de confuses et de distinctes. Les unes confuses. Elle connaît par exemple assez bien un son pour le distinguer d'une odeur, d'une saveur et de tout autre son. Mais il lui paraît simple, quoique multiple. Plusieurs couleurs mêlées ensemble ne produisent à son égard que l'apparence d'une seule. Il en est de même de toutes les impressions des sens. Elle ne démêle donc pas tout ce qu'elle renferme et elle est encore plus éloignée de découvrir toutes les causes qui concourent à chaque sensation. Elle n'a donc à ce sujet que des notions fort confuses. Les autres distinctes. Mais ces mêmes sensations lui donnent des idées de grandeur et de figure, et si elle ne peut assurer quelle est précisément la grandeur et la figure des corps, ni déterminer exactement les rapports qu'ils ont entre eux, elle sait comment une grandeur peut être le double ou la moitié d'une autre, et elle connaît fort bien une ligne, un triangle, un carré. Elle a donc, en pareil cas, des idées distinctes. Il suffit pour cela qu'elle considère les grandeurs en faisant abstraction des objets. Elle connaît deux sortes de vérités. De ces sortes d'idées naissent deux sortes de vérités. Lorsque la statue remarque qu'un corps est triangulaire, elle porte un jugement qui peut devenir faux, car ce corps peut changer de figure. Mais lorsqu'elle remarque qu'un triangle a trois côtés, son jugement est vrai et le sera toujours, puisque trois côtés déterminent l'idée du triangle. Elle aperçoit donc des vérités qui changent, ou qui peuvent changer toutes les fois qu'elle veut juger de ce que les choses sont en elles-mêmes. Elle aperçoit au contraire des vérités qui ne changent point, toutes les fois qu'elle se borne à juger des idées distinctes et abstraites qu'elle a des grandeurs. Elle a par conséquent avec le seul secours des sens, des connaissances de toute espèce.